Autour de la réforme des retraites, ce sont les sénateurs désormais qui vont examiner le texte à partir de demain. Et on a appris cet après-midi que l'unité syndicale tenait bon puisque tous les syndicats de la SNCF désormais appellent à une grève reconductible à partir du 7 mars. Donc le débat parlementaire d'un côté et puis de l'autre, un mouvement social qui veut s'inscrire dans la durée. On va en parler avec Anna Cabana. Bonsoir Anna.
Bonsoir Olivier.
Ce soir face à Alain Duhamel. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Alors
bonsoir.
Avant de parler de nos amis sénateurs, quand même un mot sur ces syndicats qui restent unis. La CFDT Cheminots, qui est le quatrième syndicat représentatif de la SNCF, a donc rejoint la CGT, Sud, l'UNSA pour une grève reconductible à partir du mardi. C'est-à-dire, on va vers des journées compliquées dans les transports.
C'est-à-dire que ça, c'est le prologue de ce que va être le mois de mars. Le mois de mars, ça va être un face-à-face permanent entre la légitimité parlementaire et la légitimité syndicale, entre le peuple des urnes et le peuple des rues. Et on va voir ça sans arrêt. Il va y avoir cet antagonisme. Et je veux dire, ce qui est annoncé cet après-midi, c'était extraordinairement prévisible.
La CFDT qui appelle à une grève reconductible, c'était pas gagné encore quelques semaines.
Mais vous avez remarqué, Anna aussi, que la CFDT et les autres centrales ont mis depuis des semaines et des semaines une stratégie commune qui a fonctionné. Alors je ne sais pas si elle sera durable, mais en tout cas elle durera bien jusqu'au moins la mi-mars.
Alors c'est clair que c'est pas une surprise. Là, il y a aucun doute, c'est pas une surprise. C'était même annoncé, si vous voulez, entre les lignes, dans la bouche de tous les leaders syndicaux. Et pour le coup, là-dessus, et Martinez et Berger le laissaient entendre. Et c'est même l'objectif était de laisser passer les vacances scolaires pour ne pas empêcher les Français de partir en vacances et de dégainer dès après les vacances scolaires. C'est exactement ce qui va se passer.
Pardon, une grève reconductible.
Non, mais ça se joue en plus en même temps que va être examiné le texte au Sénat, puisque le Sénat l'examine jusqu'au 12 mars. Et donc, vous avez le 7 mars qui est vraiment une date intermédiaire.
Attendez, vous êtes en train de dire que ça va durer au moins jusqu'au 12 mars, cette grève reconductible.
Non, mais ça va durer bien plus longtemps que ça. C'est-à-dire que là, on rentre dans un brassard.
Les cheminots vont pouvoir tenir parce
que ça coûte cher, l'objectif, c'est de mettre, ils l'ont dit très clairement, les syndicats l'ont dit, c'est mettre la France à l'arrêt. Alors, je ne vous dis pas, attendez, je ne suis pas Madame Irma de la météo syndicale. C'est-à-dire que je ne sais pas vous dire combien de jours va avoir lieu la reconductibilité de la grève, mais ce qui est certain, c'est que ça ne va pas se jouer quelques jours seulement.
C'est mars noir ou mars attaque.
Le printemps noir, si vous voulez.
Non, mais il y avait un accord depuis le début. La CGT acceptait que les grèves ne commencent pas pendant les vacances et la CFDT acceptait qu'à ce moment-là, la grève devienne reconductible à la SNCF, je veux dire.
Berger se radicalise, voilà.
Oui, absolument, mais bon, c'est la réalité, c'est comme ça.
Alors, au même moment, les sénateurs examineront la réforme des retraites. Ça commence demain au Sénat. On sait que le Sénat est majoritairement à droite et donc plutôt favorable à ce recul de l'âge de départ. Ça sert à quoi finalement que ça passe devant les sénateurs ?
Eh bien, le Sénat va faire le travail qu'aurait dû faire l'Assemblée nationale. Le Sénat va d'une certaine manière se substituer à l'Assemblée nationale. Le Sénat va débattre, dialoguer, améliorer un texte qui est toujours améliorable, le voter positivement ou négativement, probablement positivement, et il le peut pourquoi ? Il le peut d'abord parce que l'Assemblée nationale n'est pas arrivée à le faire. Bon, il peut ensuite parce qu'il a un projet de réforme qui est le cousin germain de celui que présente Elisabeth Borne et qu'il votait année après année, donc il ne se déjuge pas. Et puis il va apporter un certain nombre d'améliorations, on sait bien sur quoi, ça va être sur les femmes, ce qui est très bien, ça va être sur les carrières longues peut-être, ce qui serait pas mal non plus, et ça va peut-être être même sur les régimes spéciaux, ce qui serait une ânerie. Bon, mais il n'empêche qu'il y a les moyens de le faire, en plus. Au Sénat, il n'y a pas d'insoumis ni de Rassemblement national et il y a des pilotes expérimentés. Donc voilà, on a à partir de demain matin le vrai processus législatif qui va se mettre en route face au processus syndical.
Alors il y a dans cet épisode quand même l'ironie de l'histoire politique, c'est qu'on sait qu'Emmanuel Macron au fond avait toujours tenu le Sénat pour une vieille, la vieille étendard du bicamérisme à la française.
Sous le premier mandat.
Voilà, parfaitement inutile. On se souvient aussi des passes d'armes mémorables entre Gérard Larcher et Emmanuel Macron, notamment sur la réforme constitutionnelle. C'était il y a 5 ans exactement. Oui, oui. Et c'est parce que Larcher s'était opposé en tenant lieu de premier opposant de Macron que Macron avait dû renoncer. Et à l'époque, Macron était, enfin même pendant sa première campagne présidentielle, était vraiment l'apôtre au fond du nouveau monde qui devait se passer du Sénat. Et on se souvient aussi, Alain Duhamel, je suis sûre que vous n'avez pas oublié ça, que dans la lettre aux Français qu'Emmanuel Macron avait écrite après, au moment de lancer son grand débat après les Gilets jaunes, eh bien, il avait expliqué qu'il fallait réfléchir à une transformation et du Sénat et du Conseil économique et social. Au fond, c'était pas si utile. Là-dessus, Gérard Larcher,
soit dit en passant,
oui, était monté sur ses grands chevaux. Enfin bref,
oui,
tout
non,
ça.
Mais soit dit en passant, cette idée-là qui est vieille comme la Ve République, c'est très exactement celle que proposait le général de Gaulle en 1969.
Oui, mais ce qui est amusant, c'est que le même Macron, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Eh bien, le même Macron, au Salon de l'agriculture, il nous dit « Je souhaite que le Sénat puisse enrichir ce texte avec ce qui lui paraît utile. » Et voilà, c'est-à-dire que là, Macron, il va se mettre, il va baiser la babouche de Gérard Larcher et on nous explique qu'il s'entend beaucoup mieux avec Gérard Larcher maintenant qu'avec Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Ça vous amuse quand même quand vous voyez ça,
Ça m'amuse, mais ça ne m'étonne pas. Mais baiser la babouche, ça n'est pas exactement l'expression que j'aurais utilisée parce que c'est plutôt le contraire de son tempérament.
Oui, mais justement, c'est là que c'est drôle, Alain, parce que là, non, il est quand même obligé.
Non, mais le Macron.
Il a besoin de LR.
Mais le deuxième Macron ne ressemble pas au premier Macron, personne ne peut dire le contraire. Et le deuxième Macron a besoin des Républicains alors qu'il essayait de les détruire pendant le premier mandat. Oui, enfin, c'est la réalité.
Ce qui est amusant, c'est que ce sont les Républicains qui dictent leurs conditions. J'ai entendu Bruno Retailleau, le sénateur de Vendée, dire qu'alors nous, on veut une politique familiale, on veut aussi que finalement les régimes spéciaux soient supprimés un peu plus rapidement.
Ça, il a tort.
Il y a discussion là-dessus, parce que ça fait partie des gros enjeux.
Bah, ça ne va pas calmer les syndicats.
Pour la droite sénatoriale. Surtout dans la grève reconductible.
C'est étonnant que ce sont les Républicains qui, comme à l'Assemblée, au Sénat, vont mener de balle.
À l'Assemblée, ils ont tout empêché et au Sénat, ils vont tout permettre.
Voilà.
Alors, ça fait quand même une grande différence.
Ce sont eux, finalement, les maîtres des horloges.
La réalité de base, qui, je le dis tout de suite à Anna pour qu'elle ne me le dise pas, est très différente.
J'aime quand vous devinez, que vous lisez dans mes pensées, Alain Duhamel.
Assez bien. C'est l'opposé de ce point de vue du premier mandat. Ce qui va se passer cette fois-ci, c'est que Emmanuel Macron s'appuie sur les Républicains du Sénat. Bon, et que sous le premier mandat, il devait faire face aux Républicains du Sénat.
Oui, mais...
Parce que vous disiez tout à l'heure que il avait des envies de réduire à quia le Sénat. Disons, pour être équilibré, que c'était totalement réciproque et que le Sénat
avait aussi envie de le réduire.
Dès l'affaire Benalla, n'avait qu'une idée, c'était de le réduire à une potiche.
Oui, mais la question, vous savez, c'est qu'à l'époque, Larcher disait qu'il voulait être le contre-pouvoir parce que précisément, il considérait qu'il n'y avait plus aucun contre-pouvoir et que c'était... Il ne restait plus que le Sénat. Mais sur les enjeux, là, il y a quand même... Donc, il y a l'enjeu de l'institution sénatoriale, l'enjeu historique,
de montrer
son utilité, on est d'accord. Il y a un enjeu historique, il n'y a pas de doute. Mais il y a un enjeu aussi pour chacune des oppositions et ces enjeux peuvent rentrer en contradiction. Parce que pour la droite, il va s'agir de quoi ? De montrer qu'on est responsable, donc responsable, mais qu'en même temps, on est assez fort pour peser sur le texte. Et donc là, toute la question des régimes spéciaux, est-ce qu'il faut accélérer la fin des régimes spéciaux ? Ça, il va y avoir même conflit à l'intérieur des Républicains et ça va montrer, si vous voulez, à quel point le curseur comment on va positionner le curseur chez les Républicains. Et vous avez un enjeu à gauche, c'est-à-dire à gauche, montrer qu'on peut être une gauche d'opposition, qui ne fait pas de l'obstruction et qui fait de la proposition. Oui. Mais ça veut dire, Alain Duhamel, et ça, je suis sûre que ça vous intéresse, qu'on a là...
Mais tout ce que vous dites m'intéresse.
On a là une chance pour que et la droite de gouvernement et la gauche de gouvernement se refassent une santé politique, alors que depuis le début du mandat Macron, le premier mandat Macron, eh bien on a et la droite de gouvernement et la gauche de gouvernement qui sont torpillées. Et bien là, pour la première fois,
vous êtes en train de dire que ça va relever le niveau, c'est-à-dire que on a quand même reproché au débat à l'Assemblée de pas voler toujours très très haut, des insultes, avec des cris, avec des coups de théâtre. Au Sénat, le niveau sera pas le même, c'est ça, Duhamel ?
Déjà, de toute façon, le niveau du Sénat est supérieur au niveau de l'Assemblée. Ça, c'est pas propre.
On n'a pas attendu cette histoire-là.
Les sénateurs sont meilleurs que les députés.
Les sénateurs, en tout cas, sont de toute façon, personne ne dira le contraire, ne pourra dire le contraire, beaucoup mieux mieux élevé et beaucoup plus courtois.
Une question d'âge, il n'y a
aucun doute.
Si, une question d'âge, Alain.
Mais écoutez, ça, c'est vous qui le dites et qui le voyez. Mais par ailleurs, ils ont d'excellents spécialistes. Et quand ils présentent un texte, c'est vraiment quelque chose de travaillé.
Et pourquoi on n'a pas ça à l'Assemblée alors ?
Eh bien, parce qu'à l'Assemblée, on fait... Mais c'est normal, c'est aussi la nature de l'Assemblée. À l'Assemblée, on fait plus de politique. Et au Sénat, on fait quand même plus de technique. Quand on regarde, quand on prend un projet ou une proposition de loi, on la travaille à fond. À l'Assemblée, on polémique là-dessus, ça n'est pas la même chose. Mais il faut aussi de la polémique. Et il faut aussi que les différentes sensibilités politiques, y compris extrémistes, s'expriment.
Mais Olivier Dussopt ne sera pas insulté au Sénat.
Vous êtes d'accord que là, quand même, ils vont faire peut-être de la technique, et on peut le souhaiter, et je le souhaite ardemment, mais ils vont faire beaucoup de politique, parce que vous avez vu que Bruno Retailleau est en train d'essayer d'avoir la peau d'Aurélien Pradier, et que là, vous avez les barons de la droite qui se liguent.
Oui. C'est réciproque.
Je ne dis pas le contraire.
C'est plutôt Pradier qui s'est directement opposé et au Sénat.
Absolument. Et à Bruno Retailleau.
Oui, mais ce n'est pas le même langage qui est utilisé au Sénat.
On est plus feutré. Vous connaissez les expressions. C'est-à-dire les tapis, les moquettes rouges du Sénat permettent d'étouffer tout et aussi les crimes politiques qui sont commis dans cette enceinte. Ça, on le sait. Ça ne veut pas dire qu'ils sont gentils, les sénateurs. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'ils se comportent de manière plus civilisée, c'est-à-dire plus urbaine, vous n'aurez pas le chaos radical, mais parce que, mise en scène et outrancier.
Mais parce qu'il n'y a pas d'insoumis au Sénat.
Ni de Rassemblement national.
Oui, c'est surtout les insoumis qui ont été montrés comportement à l'Assemblée.
Oui, sur les retraites. Sûrement. Sur d'autres sujets, ça sera différent.
D'accord. Hein. Mais c'est la grande différence.
Mais bien sûr, mais c'est normal que la véhémence soit à l'Assemblée nationale. Ce qui n'est pas normal, c'est que ce soit le désordre institutionnel. C'est normal qu'on soit plus serein au Sénat, et c'est normal qu'on travaille plus au Sénat. Ça ne veut pas dire que le Sénat n'a pas d'arrière-pensée politique. Bien sûr qu'il a une des arrière-pensées politiques.
C'est même les pires des arrière-pensées politiques se jouent là-bas.
Et le Sénat a en tête, et d'ailleurs a largement les moyens de, imposer en réalité ce qui était son projet de loi des retraites depuis, quand même, c'est la 5e année.
Alors, vous êtes des spécialistes. Ceux qui nous regardent, et moi-même, on n'est pas forcément des grands spécialistes de la vie parlementaire. Que va-t-il se passer ? Le Sénat va en débattre.
Oui, en commission à partir de demain.
Ils vont voter sans doute la réforme. Et ensuite, réforme votée revient à l'Assemblée.
Non. Alors, ensuite, il y a une commission mixte paritaire composée à égalité de députés et de sénateurs, mais au sein de laquelle ceux qui sont favorables à la réforme, pas forcément à la réforme d'Emmanuel Macron, mais à la réforme des retraites du Sénat, sont en majorité parce que c'est à la fois les sénateurs et la minorité de droite de l'Assemblée qui, sur ce point-là, vont converger. Donc, le texte
sera adopté.
Non, le texte, ensuite, il faut encore qu'il soit voté.
À l'Assemblée.
Alors, à l'Assemblée et au Sénat. Et de nouveau. On peut imaginer qu'à l'Assemblée, ça ne passe pas. Moi, je crois que ça passera quand même à ce moment-là, parce qu'autrement, ça obligerait les députés LR
à déjuger les sénateurs.
S'opposer publiquement aux sénateurs LR, ce qui ne fortifierait pas.
Mais alors, ça nous emmène jusqu'où, là, cette histoire ?
Fin mars.
Oui.
Fin mars.
Oui.
C'est pour ça qu'on disait qu'il y avait un vrai mars noir dans les grèves et blocages.
Est-ce que les Français vont pas être exaspérés de tout ça ?
Ça ne veut pas dire que les blocages dureront jusqu'à fin mars.
Mais ça veut dire que ça peut être quand même concomitant.
Ça peut arriver. Voilà. On va avoir un mois de mars convulsif. Mmh. D'ordinaire, c'est plutôt le mois de mai. Eh ben, cette année, ce sera le mois de mars.
Et qui aura le dernier mot alors ?
Gérard Larcher.
Non, mais qui aura le dernier mot dans cette histoire ?
La réforme des retraites, elle est quand même entre les mains.
Alors, Anna,
je pense que le projet finira par passer.
C'est toujours Alain qui a le dernier mot, vous savez bien.
Vous aurez la parole.
Je pense que le texte finira par passer et qu'une fois qu'il sera passé, on ne pourra pas l'annuler. Mais je pense qu'il va en être, et ça sera ça le facteur politique important. Ça ne sera pas que le projet de loi des retraites ait été voté, c'est qu'il en restera un ressentiment et une amertume terrible chez les Français. Et que ça risque de colorer toute la fin du second mandat.
Anna,
oui, parce qu'en
fait, aura le dernier mot alors ? C'est la question.
Non, parce qu'ils veulent, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Olivier Dussopt veulent une espèce de légitimité parlementaire à ce texte. Et donc, au fond, le Sénat,
probablement. C'est obligatoire.
Bien sûr, mais ils ont besoin de cette estampille dans la contestation et le charivari d'aujourd'hui. Et en vérité, on n'est même pas sûr que ça suffise, même quand bien même ce texte serait-il voté, qu'au fond, cette légitimité, le mot même de légitimité, va avoir du mal à être attaché à ce texte dans l'imaginaire collectif français.
Il y a deux légitimités.
On le voit bien. Ben oui.
Il y a deux légitimités. Il y a une légitimité parlementaire et politique et il y a une légitimité syndicale et processionnaire.
Et vous avez eu le dernier mot.
Toujours. C'est ça le talent et l'expérience, comme un sénateur. Merci Alain Duhamel, merci Anna Cavana.